Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Oui, chers amis, on va parler rugby, oui, hein, Philippe. Hein.
On va pas parler que rugby, on va aussi parler foot.
Ah bon, oh pétard, dis donc, alors c'est incroyable, appelez-nous, 0826-303.
Danny Moreau a de la concurrence, notre imitateur. Oui, alors je fais mon mea culpa, mais j'ai fait une erreur. Oui, on a mis sur le Twitter, j'ai envoyé à Philippe Rossi Albanie au lieu d'Islande.
La première c'est comme question, l'autre avec son hymne, voilà, c'est pareil. Ouais.
Absolument, pareil. Non mais c'est parce que vous me perturbez. Parce que vous travaillez dans mon axe, dans la rédaction.
Ah bon ?
Et quand je vois que je parle football, ben je vois Lionel Messi en vous voyant.
Oh là là !
Et quand je parle rugby, quand je vous vois, je vois Antoine Dupont.
Ah oui, je connais pas, mais enfin...
l'équipe de France, donc vous pouvez quand même voter, oui. Les Bleus vont-ils assurer leur ticket pour l'Euro contre l'Islande ? 20h45, coup d'envoi, c'est à Reykjavik, donc on joue à l'extérieur. Et lundi, là, ce sera beaucoup plus compliqué, enfin, aussi compliqué parce qu'on joue chez nous, donc on n'a pas le déplacement, face à la Turquie au Stade de France, coup d'envoi à 20h45. Et une équipe de France qui a quand même pas mal de blessés et de joueurs sur une jambe ou une jambe et demie. Avec nous pour en débattre, notre voix féminine, Marie-Ève Wilson-Jamin. Salut Marie-Ève.
Bonsoir.
Il m'a imité, donc il ne reviendra plus. Emmanuel Galasso, salut Emmanuel.
Salut, salut Philippe, salut à tous.
C'est la troisième personne, il a même fait Philippe Bilger tout à l'heure. Et Alexandre de Moussac, salut Alexandre.
Salut Philippe, bonsoir à tous.
Alors bon, on va parler de ces deux matchs, parce qu'ils sont quand même à quelques jours d'écart, à trois jours d'écart. Marie-Ève, ce match en Islande, comment tu le sens ?
Pas si facile que ça. On a vu qu'on n'aime pas trop se déplacer, on a perdu quand même en
surtout, je te fais une remarque. Après une victoire en Coupe du Monde, on tombe toujours sur l'Islande, parce que pour l'Euro 2000, on était toujours dans le groupe de l'Islande, et le premier match, on avait été faire 1-1 à Reykjavik.
Bon, ce qui rassure, c'est que l'équipe de France a battu l'Islande au match aller 4-0, mais l'Islande, il y a trois matchs à domicile, trois victoires. Donc c'est plutôt ça qui est inquiétant, c'est qu'ils ont l'air d'être plutôt bons à domicile. Après, sur le papier, évidemment, la France est supérieure.
Emmanuel ?
Ça va pas être un match simple, ça c'est sûr, notamment avec les absents. Après, je pense que l'Islande est troisième du groupe parce que le groupe est assez faible.
Alors, je donne le classement. Turquie, vas-y, 15 points. France, 15 points. Alors, on a plus 15, les Turcs plus 2. Oui. Mais ils sont devant nous parce qu'ils nous ont battus et que c'est la différence de but particulière. C'est pour ça que si on les bat, il faudra gagner par 3 buts d'écart idéalement pour se mettre un petit matelas. Et Islande, 12 points.
Voilà, donc
après, il y a l'Albanie à 9, que j'ai mis sur le Twitter, pardon. La Moldavie à 3, très loin, et Andorre, nos amis andorrans qu'on salue à 0.
Je pense que le jeu islandais est quand même assez stéréotypé. On connaît leur qualité, ils sont solides défensivement. Après, ils ont surpris à l'Euro 2016. Là, ils arrivent à être solides dans un groupe hyper accessible. Donc pour la France, il peut y avoir un match nul, ça peut être la seule surprise. Mais je ne vois pas perdre là-bas. Et finalement, les absents qu'il y a, je trouve que ça peut être une bonne chose parce qu'on va tester.
Alors, on va faire le point des absents.
On fera le point
après,
sur les absents.
S'il y en a. Alexandre, comment tu le sens ce match à Reykjavik ce soir ?
Bon, il y a quand même une compo.
T'as remarqué la bonne prononciation de Reykjavik.
Impeccable. Il y a quand même une compo de l'équipe de France. Il y a quand même une compo de l'équipe de France qui est quand même assez solide malgré les absents. Il y a peut-être toujours cette histoire dans les pays nordiques comme ça. Hier, il faisait, je crois, 6 degrés avec beaucoup de vent dans le stade, donc il faut toujours s'adapter. Quand on sait qu'il fait 20, il fera peut-être 25-30 en France demain, donc 6 degrés, voilà. C'est une équipe...
C'était le point méthode Rémi André.
Voilà, c'est ça.
Un peu moins de barbe, tu remarqueras. Mais...
Ouais. Bon, c'est une équipe qu'on a affrontée à l'Euro.
5-2.
Voilà, je pense que ça peut être
tranquille.
Je crois que ça peut être un bon test pour le match qui nous importe le plus, c'est-à-dire la Turquie lundi.
La Turquie, ça va être la finale du groupe, on va en parler. Alors, on va commencer évidemment par parler des absents, parce que Dieu sait, toutes les lignes de l'équipe de France sont impactées. On commence avec Lloris, dont on sait désormais qu'il ne jouera plus aucun match pour les qualifications de l'Euro 2020.
Il jouera plus en 2019.
Voilà. Comme la fin des qualifs, sauf barrage, enfin, ce sera quand même en 2019.
Ouais.
Même si on était barragiste, il ne jouera pas de toute façon. Est-ce que c'est un gros coup dur, l'absence de Lloris, qui s'est blessé tout seul en Première Ligue samedi dernier ?
Moi, je pense pas. Je pense qu'on a d'autres très bons gardiens. On en a déjà parlé quand on parle de l'équipe de France ici. En France, c'est pas le poste qui m'inquiète le plus. Hein.
Mandanda
fait un bon début de saison avec Marseille. C'est vrai qu'il était, il s'était pas mal loupé l'année dernière.
Il n'avait pas été retenu pour les derniers matchs des Bleus par Deschamps.
Et là,
contre l'Albanie et l'Andorre.
Il fait un très bon début de saison, donc s'il est titulaire ce soir, c'est mérité. Donc moi, Lloris, et puis en plus, psychologiquement, après après 7 buts, c'est compliqué aussi. Donc de toute façon, il aurait eu du mal.
Je rappelle, c'est le Tottenham-Bayern-Munich, où ils en ont pris 7 chez eux. Là, c'est sûr que la surcharge bagage est quand même importante, là, vu la valise que tu as prise.
Et puis, je trouve que c'est bien aussi de faire tourner ce poste. Il ne tourne pas assez, moi, je trouve. Donc, c'est toujours le même gardien. Là, je pense que Mandanda, il a sa place.
Alexandre, pour toi, pas de doute, Mandanda titulaire
Mandanda
ce soir.
Mandanda titulaire. Et puis, il y a quand même une super solution de secours. Areola, qui profite en ce moment d'une situation assez exceptionnelle au Real Madrid, puisqu'il devient numéro 1 à la place de Courtois. On va voir comment ça se passe.
Il a sauvé le Real contre Bruges à 2-0. C'est lui qui fait un arrêt monstrueux.
Voilà, Courtois qui sort à la mi-temps. Il le remplace dans les buts pour le match de Liga de la semaine dernière. Bon, il devient numéro 1 du Real Madrid. Donc Mandanda, Mandanda, il revient bien. On a Areola aussi. On a Maignan, et puis il y en a encore d'autres. On a un super vivier, Lafont en espoir. Enfin, voilà. C'est pas le poste qui m'inquiète le plus. Je suis un peu d'accord avec Marie.
Bon, Mandanda pour toi titulaire ce soir, Emmanuel.
Mandanda titulaire. La blessure de Lloris, je pense que c'est avant tout un coup dur pour Lloris. Après, pour l'équipe de France, si on prend
qui
la.
Qui a 33 ans.
Qui a 32 ans.
Oh, il va en avoir 33 à la 87. Fin de l'année. La fin... Non, 86, Lloris. Bon, c'est pas grave, c'est un détail.
32-33 ans. Non, mais tu dois avoir raison. Et donc voilà, je pense que, enfin, si on prend la courbe un petit peu sur l'état de forme, Lloris était plutôt sur la pente raide, alors que Mandanda est revenu en pleine forme depuis le début de saison. Donc je pense que sportivement, on perd pas au change. Et puis, ça remet pas forcément en question la hiérarchie. Je pense qu'ils ont le même match pour
Alexandre.
Mandanda.
Philippe, tu voulais dire quoi? Tu dis que c'est une sorte de début de la fin pour Lloris en équipe de France, cette blessure?
Ah bah 32-33 ans. Alors c'est sûr que le problème, c'est Mandanda est plus vieux que lui. Il en a 35. Voilà. Mandanda en a 35 de mémoire, si on veut vérifier ses dates de naissance. Donc le souci, c'est que c'est toujours grave, une blessure. Il en a au moins pour 4 mois. Il en a au moins pour 4 mois. Est-ce qu'il va retrouver toutes ces sensations? C'est ça le problème. Ouais. C'est pas la durée de récupération de la blessure.
C'est-à-dire qu'il y a des matchs amicaux avant un tournoi potentiel à l'été, donc c'est vrai que
c'est vrai que là ça peut être compliqué.
Reste aussi à savoir si son remplaçant à Tottenham va assurer. S'il assure, en plus, Lloris ne reviendra pas tout de suite, et du coup, l'équipe de France, il pourra faire une croix dessus.
Alors, il y a un secteur le moins touché, c'est la défense. Pavard, a priori, ok. L'anglais, Varane, ok. Hernandez, sur une jambe ou une jambe et demie.
Ouais, et c'est assez incroyable. Enfin, incroyable. C'est-à-dire qu'il y a cette mini-guerre entre Deschamps et le coach du Bayern Munich, qui lui a demandé de ne pas jouer. Il a demandé de ne pas faire jouer Hernandez. Oui. Deschamps a dit il est apte. Alors, je vais vous dire ce que j'ai lu tout à l'heure. Donc, Deschamps, il a téléphoné à Niko Kovac, le coach du Bayern, après l'annonce de la liste. Et puis, il y a eu cette petite affaire en Allemagne où... Kovac ne voulait plus envoyer les joueurs
en sélection.
Bon, là, il s'agit d'un joueur français, donc ce n'est pas pareil. Non, mais voilà, il ne voulait plus envoyer les joueurs allemands en sélection.
Joachim Löw a dû beaucoup apprécier. Ouais.
Les affaires avec Neuer, Ter Stegen, tout ça. Voilà, Deschamps lui a dit, t'inquiète, il est en bonne forme. Mais il a dit que s'il estimait qu'il n'était pas en état de faire les 90 minutes, il ne prendra pas de risque. Et Niko Kovac lui répondit, t'inquiète, j'ai été coach de la Croatie, j'ai été sélectionneur, je sais ce que c'est. Mais il y a quand même, on pourra peut-être en reparler en ce moment, ces petites guéguerres entre coach en club et Deschamps, il y a eu Lampard, tout ça, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Justement, qu'est-ce que tu en penses,
Emmanuel? Pour le coup, ce qui est marrant, c'est que Kovac et Deschamps, Deschamps, quand il était entraîneur de l'OM, faisait un petit peu les mêmes réflexes vis-à-vis de Domenech.
C'est vrai.
Kovac est passé de l'autre côté, donc il y a une inversion. Pour moi, ça a toujours existé quelque part. Maintenant, on en parle un peu plus parce que c'est plus relayé, mais bon.
C'est comme Bernard Laporte qui, maintenant qu'il est président de la Fédé, trouve qu'il y a beaucoup trop de joueurs étrangers dans le top 14.
C'est ça.
Mais quand il était à Toulon,
ça le dérangeait moins.
Il faisait venir des Sudaves, des Néo-Zélandais, des Australiens. Selon l'endroit où tu te trouves, les indignations sont à géométrie variable. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h14. Eh bien, vous êtes positif. 68% d'entre vous pensent que la France va assurer sa qualif pour l'Euro dans les deux matchs ce soir, 20h45 Islande-France et lundi 20h45 au Stade de France, France-Turquie. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Et on parle football pour le moment. Et vous êtes 68% à penser que nos tricolores vont assurer leur ticket pour... ce ne sera pas l'euro en France, en Allemagne ou ailleurs. Il va être un peu partout en Europe, qui aura lieu en juin. Ah oui, ça se joue dans 7 ou 8 pays européens. Ça va jouer même sur 3 fuseaux horaires. Alors, ça va être sympa entre l'Angleterre et la Russie.
Le risque de typhon est limité.
Ouais. Oui, ça va.
Là, mais ça va. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. On a parlé de Mandanda Hernandez. Sur une jambe, on en a parlé. Milieu de terrain, un absent, certain, Paul Pogba. Par contre, un retour... N'Golo Kanté. Ouais. Est-ce que la France y gagne ou y perd au change?
Ouais, il gagne, ça c'est certain. Enfin, moi, depuis la Coupe du Monde, pour moi, Kanté, il est indispensable, que ce soit dans son club et en équipe de France. À chaque fois, sans lui, c'est pas du tout la même chose. Pogba, le problème, c'est qu'il est trop inconstant. Et du coup,
en fait, il est retombé dans les travers qu'il avait perdu au moment de la Coupe du Monde.
Oui, exactement.
Comme on dit, il faisait beaucoup de mayonnaise avant, toujours tenter le dribble de trop, le râteau pour se montrer, etc. À la Coupe du Monde, il avait arrêté et il est retombé dans les mêmes travers.
Mais après, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même poste. Hein. Voilà, quand t'es, il récupère,
quand
il
joue point de basse.
Voilà, c'est ça. Pogba, il est beaucoup plus offensif. Donc on peut pas comparer. Mais pour moi, quand t'es au milieu, ça me rassure beaucoup plus que Pogba.
Ouais, pour le coup, Emmanuel, sur l'état de forme, moi je trouve que Kanté, je suis pas forcément d'accord depuis la Coupe du Monde, je trouve qu'il a baissé avec Chelsea, il est plus irrégulier, il a été blessé. Il a été blessé, mais en revenant, je trouve qu'il perd physiquement, forcément, dans l'espace qu'il couvre. Il a perdu physiquement.
Il a mis des beaux buts.
C'est pas un buteur, mais il a mis deux jolis buts.
Mais c'est sur les certitudes, il a été un peu décevant sur ce qu'il faisait avant de manière régulière. Et après, c'est vrai qu'offensivement, il apporte un peu plus. Après, pour ce qui est de Pogba, moi je trouve qu'en effet, il fait beaucoup de gris-gris à Manchester. Il y a eu des petites périodes, il s'est calmé pendant la Coupe du Monde, mais Pogba, quand il est avec Kanté, il joue beaucoup plus simple.
Ça, c'est le duo qui marche.
Le duo marche super bien, Kanté le canalise. Donc le top, ça reste Kanté Pogba.
Alexandre.
Ouais, ce milieu de terrain, Tolisso Kanté, le milieu de terrain un peu défensif qu'on annonce. Je pense pas que Kanté va faire tout le match. On verra, mais je pense pas. Mais c'est une super bonne nouvelle. C'est une super bonne nouvelle. Kanté, il reste quand même à un niveau exceptionnel. Je dirais.
C'est-à-dire qu'il a trois poumons, pas de rate. Donc déjà,
il reste toujours pour moi dans les trois joueurs français qui restent au top en ce moment. Donc très bonne nouvelle. Je pense qu'il va faire une heure de jeu. Ce sera bien.
Et pour ce qui est du milieu terrain, c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, on joue à deux milieux défensifs. Moi, je trouverais ça intéressant de sortir Matuidi du 11.
Ouais, mais pourtant, c'est un joueur d'impact.
C'est un joueur d'impact, mais je trouve que là, ce sur quoi on avait réussi à surprendre tactiquement pendant la Coupe du Monde, aujourd'hui, je parlais de l'Islande tout à l'heure, on est devenu hyper prévisible
avec le schéma de jeu. On connaît,
Si on testait un milieu à 3 avec Kanté,
ou alors c'est que l'entraîneur adverse n'a pas la vidéo.
Oui, c'est ça.
Il arrive les mains dans les poches. Et si on tentait un milieu de terrain à 3 avec Kanté, point de basse et Tolisso, Pogba devant. Après Mbappé, Griezmann, Giroud. Oui. Je pense que ça serait super intéressant parce que Tolisso, il peut vraiment apporter quelque chose.
Mais là, sans Pogba, tu mets qui est
Ndombele ? Sans Pogba, du coup, sans Pogba, on peut jouer à deux milieux défensifs. Mais avec tous les joueurs qu'on peut avoir, je trouve que ce serait bien d'essayer à trois à l'avenir.
Qu'est-ce que t'en penses, Marie-Ève ?
Ouais, c'est une bonne idée. Après, c'est vrai, comme tu disais, le duo qui fonctionne bien, c'est Pogba-Kanté. Tolisso, il a sa place aussi. Enfin, voilà, il joue pas dans un petit club. Pour s'imposer dans ce club-là,
c'est sûr.
Que, c'est pas une solution par défaut. Ça reste quand même une option de choix. Oui. Quand même.
Et c'est ça la chance qu'on a aussi par rapport aux Islandais. On a quand même, si on a des blessés.
On a quelques chances.
On a du banc, c'est clair.
Et même ceux qui sont pas dans le 11, c'est pas n'importe qui.
Justement, Alexandre, il y en a un dont on est obligé de parler parce qu'il est milieu de terrain, on va dire très offensif, plutôt 9,5. Griezmann, qui a quand même été décevant sur les deux derniers matchs, où il rate quand même un pénalty à chaque match.
Apparemment, il a fait une grosse séance pour s'entraîner au pénalty, pour se rassurer un peu.
C'est ce qu'il avait fait après avoir échoué en finale de Coupe d'Europe, la Ligue des Champions 2016.
Contre le
Real. Il a fait des pénaltys. Et il s'y est remis, là ?
Il s'y est remis, et apparemment, c'est presque sûr, s'il devait y avoir pénalty pour la France, il n'y aurait aucune discussion, c'est Griezmann qui irait direct.
Pas que sur les pénaltys, là, aujourd'hui, sachant que Mbappé, on va parler des attaquants, est pas là. Que le deuxième attaquant Giroud, on peut pas dire qu'il ait beaucoup de temps de jeu du côté de Chelsea.
Même pas du tout. Il était pas dans le groupe la dernière fois.
Oui, c'était un euphémisme, évidemment. Inutile de dire que ce soir et contre la Turquie, l'homme qui a les clés du camion, c'est Griezmann.
Griezmann, ce serait vachement important pour lui pour se rassurer parce que c'est évidemment pas le début de saison idéal pour lui, évidemment pour à Barcelone. Donc ce genre de match est aussi là pour relancer ce genre de joueur.
Mais justement, Marie-Ève.
Non, je voulais juste dire que c'est vrai que c'est pas facile non plus. Malgré son expérience, débarquer à Barcelone avec une telle équipe, il faut quand même un peu de temps,
bien
même
sûr.
Si t'es Griezmann, même si t'es champion.
Cette pression médiatique à des joueurs à 100 millions, autour de 100 millions, ils sont évidemment malheureusement obligés de planter 2-3 doublés dans les 5-6 premiers matchs, c'est comme ça.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, je croise les doigts pour que justement il se relance ce soir et que. Il a, comme tu dis, les clés du camion.
Justement, Mbappé blessé, Giroud pas de temps de jeu, qu'est-ce que vous voyez comme attaque ? Je sais pas.
Je pense que Coman, qui a marqué dans les deux
derniers matchs.
Coman, c'est le joueur de l'équipe de France en ce moment.
Coman, c'est incontournable, mais qui avec lui ?
Ce sera Coman à droite. Ce sera Coman à droite, Matuidi à gauche, Griezmann derrière Giroud et Giroud en pointe.
C'est ça.
Tu vas mettre Giroud ?
Giroud,
il n'a pas de temps de jeu.
Non, mais c'est Deschamps.
Mais c'est Deschamps.
Pour Deschamps, c'est Giroud.
La sélection, c'est un club pour Deschamps. Lui, il fonctionne avec les mêmes joueurs, il leur fait confiance. Je ne dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est ce que va faire Deschamps ce soir.
Tu penses que Giroud va être titulaire
Aucun doute. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une vraie série négative qui n'arrivera pas tout de suite, à mon avis, en équipe de France, je pense que Deschamps, il ne changera pas. C'est vrai, exactement ça. Il joue comme un. comme une composition de club, non, non, je pense que la compo, même la, on sait.
Sinon, si c'est pas Deschamps, si c'est nous, moi je mets Ben Yedder, évidemment.
Bah, moi, je mets, oui, mais,
moi aussi.
Par c'est, rapport c'est à la forme actuelle.
C'est là où je voulais en venir. Ben Yedder, il est rentré contre l'Andorre, il a marqué. Ouais. Ben, moi, j'aurais bien mis Ben Yedder, Coman, parce que Ben Yedder, Coman, en ce moment, il plante.
Et puis malgré le mauvais...
Alors que Giroud, il joue pas. Et pourtant, ouais, j'ai toujours défendu Giroud. Hein.
Ouais. Et puis malgré le mauvais début de saison de Monaco, il plante.
Oui.
Et alors, c'est sûr, il y a Slimani, il y a Golovin. Mais bon, en équipe de France, on a des mecs capables aussi de faire des belles passes. Donc, évidemment, pour moi, c'est Ben Yedder.
Et surtout, désolé, l'Islande, si elle veut garder une chance de se qualifier, doit nous battre ce soir. Elle va jouer l'attaque. Vaut mieux avoir deux joueurs rapides comme voilà, Coman et ça. Ben Yedder qu'un
avec
joueur de remise
comme, ça,
comme Giroud. Je ne sais pas, tactiquement, moi, ça me paraît normal.
Et puis surtout, on parle de la complémentarité Giroud-Griezmann pour leur football très différent. Je trouve qu'ils ont... Ben Yedder et Griezmann sont pas forcément très loin dans leur manière de jouer, mais ils sont hyper complémentaires. Moi, je pense, je mettrai aussi Ben Yedder à la place de Giroud ce soir, mais je pense que le seul moment où Giroud va sortir du 11, c'est quand Deschamps décidera de mettre Mbappé tout seul en pointe.
Bien sûr.
En attendant ça, Giroud sera titulaire.
C'est-à-dire pour les matchs suivants où on va rencontrer, je ne me trompe pas, l'Albanie et la Moldavie, contrairement au compte Twitter. Vous êtes bien sur Sud Radio, 19h25, et vous êtes toujours 68% à dire que les Bleus, oui, les Bleus vont assurer leur ticket pour l'Euro. On espère que vous avez raison. Tiens, très vite vos pronos pour ce soir.
2-0 pour la France.
Pour toi, Emmanuel?
2-1 pour la France.
Ah ouais, moi je vois bien un bon 4-1, disons.
4-1, ouf. Et ben maintenant, on va parler rugby. Ouais. Et on va se poser la question de savoir si entre les matchs annulés en Coupe du Monde et le top 14 français, le rugby est un sport professionnel. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Retour des vraies voix sport, on a parlé foot. Vous croyez en les Bleus, par contre, vous êtes plus dubitatif sur le rugby. Match annulé en Coupe du Monde, top 14 faussé, le rugby est-il vraiment un sport professionnel? Et vous êtes 54% à dire non. On a toujours avec nous, évidemment, Marie-Ève Wilson-Jamin, Emmanuel Galasso, Alexandre de Moussac, et comme toujours, il est là pour les matchs, il est là tous les vendredis avec nous, nous a rejoint notre consultant, Philippe Spanghiro. Salut Philippe.
Salut à tous.
Bonsoir.
Alors, comme tu vois que l'Italie, bon, elle aurait certainement pas battu les Blacks, est éliminée sur... match annulé, parce que le match Nouvelle-Zélande-Italie est annulé, que la France, imaginons qu'on ait perdu contre les Tonga, aurait été éliminée, parce que match annulé, match nul contre l'Angleterre, est-ce que tu trouves que ça fait vraiment sport professionnel? Et je vais aller plus loin, imaginons que le Japon-Écosse soit annulé pour cause de typhon, je pense que beaucoup de gens vont hurler au scandale en disant que c'est fait pour que le pays organisateur se qualifie.
Bah, l'enjeu, enfin, ce qui va le plus prêter à discussion, c'est l'annulation potentielle du match de dimanche. Parce que là, il y a vraiment du suspense et une équipe qui peut passer à l'étrape, une équipe d'Écosse qui avait tous les arguments et toutes les cartes en main pour maîtriser son destin. Donc c'est vrai que on entend et on lit de tout sur ce qui se passe cette semaine. Mais c'est terrible pour les organisateurs de World Rugby parce qu'il paraît que le typhon qui attend le Japon ce week-end est annoncé comme le plus grave depuis 50 ans.
Entre 2300 km/h, oui.
Oui, mais malgré tout, est-ce qu'un petit typhon comme il y en a tous les ans, à cette époque, aurait pu permettre de jouer des matchs de rugby? C'est ça la vraie question. C'est se dire est-ce que la World Rugby a pas trop joué avec le feu et les Écossais sont en train de s'engouffrer dans la brèche en disant que la World Rugby avait rassuré les fédérations en disant qu'ils avaient organisé des plans d'urgence pour que la compétition ne soit pas faussée. Mais là, en l'occurrence, de quel plan d'urgence on parle? Il n'y a pas de plan d'urgence face à une catastrophe naturelle de ce type. Donc, moi, ce qui m'ennuie, c'est que, en fonction de ce qui va se passer dans les prochains jours, les vainqueurs des phases finales et même potentiellement le champion du monde, même si c'est les Blacks, sera toujours un champion du monde avec des oui mais. Donc, oui. Ça restera, quoi qu'il arrive, une Coupe du Monde manquée.
Alexandre de Moussac.
Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que ça arrive sur le match le plus épique. Enfin, je veux dire,
bah, le
pays organisateur. Non, je parlais de Japon-Écosse. Le France-Angleterre, oui. Bon, Je ne sais pas si vous pensiez qu'on allait...
Non, la logique est respectée.
Bon, voilà. Oui. Mais je parle du Japon-Écosse. On est quand même sur un match entre le pays organisateur et l'Écosse, bah, grand pays de rugby. Oui. On est quand même... On n'aurait pas pu l'écrire, un truc comme ça. Je veux dire, ça va faire... J'ai du mal à croire que le match ait lieu. Bon, je ne suis pas spécialiste nippon.
L'Écosse insiste
de...
pour jouer. Hein,
oui, bah, oui,
ça,
oui, oui,
on
oui.
le comprend.
Mais c'est quand même incroyable qu'il arrive à ce match et il va y avoir on va en parler longtemps, je pense, de ce match et de l'avenir. On est quand même à un moment où la Nouvelle-Zélande peut jouer contre trois équipes à l'heure où on se parle.
Absolument. Bah, on va faire le point des quarts de finale potentiels. Il y en a déjà un qui est sûr ou deux qui sont quasi sûrs. C'est, allez, on va dire Angleterre-Australie et Galles-France.
Si on parle du principe que les Galles remportent contre l'Uruguay, il n'y a pas beaucoup de risques à prendre.
Si l'Uruguay bat le pays de Galles, là...
Bah, on avait vu ensemble, bon, à un autre niveau, le Galles-Fidji, on avait regardé ça ensemble une partie, c'était pas rassurant.
Oui, mais les Fidji, c'était pas au top.
On est d'accord.
On est bien d'accord. Tu veux réagir, Emmanuel ?
Non, mais je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, on retiendra surtout ça de cette Coupe du Monde, et c'est quand même dommage, parce que ça fait... très amateur en fait quoi. Enfin, c'est le tournoi du dimanche organisé avec les enfants et les parents qui annulent un match parce qu'il y en a un qui est malade, qui a la gastro. Ça fait un peu ça quoi.
Ouais, c'est
donc
ça.
Je trouve ça assez surprenant qu'une compétition de cette ampleur là subisse ce genre
Marie-Ève.
De facteurs, en termes, juste pardon de vous couper, mais pour poser le contexte quand même, en termes de retombées économiques et de dimension, on parle du quatrième plus gros événement sportif
bien
au
sûr.
Monde.
Absolument. Ce qui est quand même énorme. Marie-Ève.
Bah, encore une fois, hein, ça donne une très mauvaise image du rugby. Entre les joueurs qui... Enfin, le top 14 qui a lieu pendant les matchs de l'équipe de France. Enfin, j'ai l'impression que...
Et où tu te retrouves avec le champion de France en titre avant-dernier.
C'est ça. Du coup, c'est vrai que pour ceux qui suivent que les grandes compétitions... Bah, ça donne vraiment pas une belle image de ce sport et c'est quand même dommage.
On a un commentaire sur Twitter qui est très intéressant, c'est Jazzpot qui dit « Imaginez des matchs majeurs supprimés au mondial de foot.
Non, mais c'est ça.
Imaginez le championnat continuant pendant le mondial en football et vous avez la réponse. » On est d'accord quand même, Philippe, que ça fait 24 ans que c'est 95 le professionnalisme dans le rugby. 24 ans donc que le rugby est devenu professionnel, mais dans ce domaine, ils sont complètement à la rue. Je pense qu'on est d'accord.
Ben à la rue, en fait, ils sont pris entre plusieurs feux parce que la Coupe du Monde a été créée en 1987. Le rugby s'est développé largement. Il y a une vraie volonté en Asie de développer le rugby à 15. Il y a des grandes stars mondiales qui sont venues jouer dans le championnat japonais depuis plusieurs saisons, notamment des anciens All Blacks. Il y a une franchise japonaise, les Sun Wolves, qui joue dans le Super Rugby, donc dans le championnat de
l'hémisphère sud. Coupe du Monde il y a 4 ans, c'est incroyable.
Une Coupe du Monde il y a 4 ans, c'est incroyable. Mais avant ça, la candidature du Japon avait déjà été validée. Donc quelque part, la logique d'avoir une Coupe du Monde de rugby en Asie, elle est réelle. Il fallait que pour le développement de ce sport, après, j'ai plus le nombre d'éditions, mais depuis 1987, aille sur le continent asiatique. Mais il y a deux questions à se poser. C'est dire, est-ce que les acteurs du rugby mondial qui sont impactés acceptent de dire que pour un cas comme celui-ci, on chamboule les dates? C'est-à-dire que la Coupe du Monde se passe éventuellement en mai-juin.
Faire comme on a fait pour la Coupe du Monde de foot au Qatar, où il fait 50 degrés en juin-juillet, ils la font en novembre-décembre, où il va faire que 30 ou 35.
La question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi? C'est est-ce qu'il fallait ne pas donner la Coupe du Monde au Japon ou la donner au Japon, mais déplacer ça à un autre moment de l'année, une période où il y a moins de risques de ce genre de problème climatique?
Bah, le meilleur moment, c'était février.
Pour moi, c'était le bon moment d'aller sur ce territoire-là. Ça, c'est indéniable. Ensuite, il y a les questions de période. Mais là, on revient à des réalités économiques très concrètes. Puisque en fait, la période la plus propice dont parle Philippe, en effet, c'était soit février, et on est en plein tournoi destination, mais le tournoi destination, c'est une entreprise commerciale qui est en train de vendre une partie de son capital à un fonds d'investissement pour 600 millions d'euros. Donc en fait, il y a des enjeux économiques colossaux. Les droits télé du tournoi destination tous les ans, pas par l'organisation commerciale qui gère les droits, c'est plus de 100 millions d'euros de négociations de droits télé par an. Comment vous expliquer aux diffuseurs qu'une année, on ne va pas faire le tournoi avec 100 millions d'euros en jeu? Donc après, derrière tout ça...
Philippe, je dois te poser une question de béotien dans ce domaine. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas pu intervertir le tournoi destination qu'on aurait fait en septembre, octobre, novembre, jusqu'à début novembre, et la Coupe du Monde en février, mars.
Mais non, parce que là, tu retombes après dans les problématiques de championnat domestique.
Ou
par ricochet, t'as la Coupe d'Europe qui est impactée, le championnat qui est impacté. Là, pareil, Canal va dire quoi ? Va dire, mais attendez, nous, vous nous mettez une interruption de plusieurs semaines dans le schéma. On paie 95 millions d'euros par an de droits télé. C'est nous qui régissons le calendrier. Donc voilà, et malgré tout, le problème est un peu insoluble, mais malgré tout, cette édition aurait dû mériter d'avoir une réflexion beaucoup plus profonde, parce que je vous dis, grosso modo, si le match de dimanche peut se jouer, les organisateurs passeront un peu entre les gouttes, ouais. Parce que c'est le cas de le dire. Parce que les équipes concernées n'ont pas été très virulentes. Le Nouvelle-Zélande, l'Italie était joué d'avance.
Joué d'avance, oui.
Le France-Angleterre,
est-ce que c'est pour ça que le troisième match est encore en suspens? Parce que c'est le seul match à véritable enjeu. Ou est-ce qu'on attend?
C'est le seul match à véritable enjeu. Ça concerne le
pays organisateur.
Donc on pourra toujours dire, quoi qu'il arrive, que même si, pour des raisons très rationnelles, le match ne peut pas se jouer, les Écossais auront toujours dans un coin de la tête de se dire peut-être que tout n'a pas été mis en œuvre pour qu'on essaie quand même de le jouer. Donc quoi qu'il arrive, c'est une Coupe du Monde qui fera date, parce que y a de vraies polémiques, sans compter que il y a un très gros business autour de ça, c'est tout ce qui concerne la billetterie, les agences.
Oui, bien sûr. Parce que t'imagines les gens qui se sont achetés un billet d'avion Paris ou Londres ou Marseille ou Birmingham jusqu'à Tokyo pour aller voir un match France-Angleterre, et on leur dit, écoutez, monsieur, dame, vous avez payé le billet d'avion, l'hôtel, il n'y a pas de match, rentrez chez vous. C'est hallucinant.
Ah ben c'est pas compliqué, je crois qu'il y a plus de 300 000 personnes concernées en ce moment qui sont parties là-bas pour aller assister à des matchs.
À l'un de ces trois matchs.
Du monde entier en ce moment, il y a 300 000 personnes sur le Japon pour la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est vraiment problématique. Alors est-ce qu'on peut parler d'amateurisme, je sais pas, mais de à minima de légèreté, oui.
Marie-Ève.
Ouais, le problème là dont parle Philippe, c'est clairement que c'est une histoire de gros sous.
Ah mais c'est clair.
Et c'est comme on devait organiser une Coupe du Monde de foot en Afrique. Au bout d'un moment, c'est sûr que ça doit tourner, mais...
En Afrique du Sud.
Voilà, ouais. En Afrique du Sud. Mais après, est-ce qu'on ne doit pas penser à tout ce qui est technique? Et évidemment, cette zone du monde, ce genre de problème.
Donc, alors, Emmanuel. Ouais, surtout ce qui est... Au foot, je pense que quelque chose qui a été fait de manière assez intelligente, c'est que tous les champions, on va dire le football, c'est en Europe que ça se passe, oui, globalement, le football de haut niveau, de très haut niveau, c'est à peu près à 15 jours d'écart que les championnats commencent ou se finissent.
C'est ça.
Ce qui permet d'avoir une Coupe du Monde où
une trêve plus ou moins longue, voilà, en janvier, en
plus ou moins longue, mais
en Allemagne,
quasiment
rien.
Et finalement, les pays d'Amérique latine, Brésil, Argentine, où il y a quand même du foot qui existe, oui, où il y a une vraie passion, ils se mettent au pli. Les années de Coupe du Monde, ils se mettent au pli des calendriers européens pour être à peu près performants pour les Coupes du Monde. Au rugby, c'est vrai que si on prend les gros pays de rugby où il y a des championnats comme l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, la France, il y a l'Angleterre qui est avec la France, mais ils sont sur des calendriers totalement différents.
Absolument.
Donc en fait, quoi qu'il arrive, un pays sera lésé.
C'est ça. C'est pour ça qu'on peut pas
avoir le modèle football sur le rugby.
Exactement.
Pour professionnaliser.
C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'en en foot, les deux grandes compétitions, enfin en ce qui nous concerne en France, en Europe, le championnat d'Europe, la Coupe du Monde, ouais, ça en été, ça dure aussi moins longtemps une Coupe du Monde de foot qu'une Coupe du Monde de rugby. Ça dure deux semaines de moins.
Parce qu'on joue tous les 3-4 jours, alors qu'on joue toutes les semaines au rugby.
Et d'ailleurs, on va en parler, j'imagine, sur l'aspect sportif. La France
ne
joue pas pendant 10 jours.
Ça, c'est un sacré problème. On va en parler dans quelques instants. Sud Radio, 19h42, les vraies voix du sport. Vous êtes toujours 54% à penser que le rugby n'est pas encore vraiment professionnel. Vous voulez réagir, connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le vendredi, c'est sport. Philippe David.
Là, ça fait plaisir à Marie-Ève, qui est supportrice de l'AS Monaco.
Merci, Stéphanie.
Avec nous pour en débattre, Philippe Spanghiro, qu'on a tous les vendredis avec nous, Alexandre de Moussac, et pour les matchs, bien sûr, Maria Wilson-Jamin, Emmanuel Galasso. Et vous êtes toujours 54% à penser que le foot, le match annulé en Coupe du Monde, top 14 fossé, le rugby est-il vraiment un sport professionnel? On va parler maintenant de l'aspect sportif. Philippe Spanghiro, prochain match des Bleus, c'est sûr, ce sera le dimanche 20 octobre à 9h15. Et on en sera en direct, bien sûr, sur Sud Radio. 15 jours, enfin 2 semaines sans jouer, parce qu'on a joué dimanche dernier. Est-ce que c'est pas problématique pour l'équipe de France de passer 2 semaines sans jouer, alors que les Gallois, eux, vont jouer?
Alors, c'est problématique à deux titres. C'est problématique d'abord parce que c'est long, oui. Des matchs de cette intensité, il faut les répéter régulièrement. Et c'est doublement problématique parce que, comme côté français, on a eu beaucoup d'incertitudes sur les joueurs. On a fait tourner, on a regardé jusqu'au dernier moment qui étaient les titulaires. On a l'impression que le staff s'est posé beaucoup de questions sur son équipe type jusqu'à ces dernières semaines. On avait l'impression que l'équipe type était enfin alignée contre l'Angleterre. Et donc, cette équipe type, c'est l'équipe type plus ou moins qui avait joué l'Argentine. Et donc l'Argentine, c'était il y a un mois.
Presque.
Oui. Et donc ça veut dire que...
Ça fera un mois pour le match.
C'est ça.
Ça veut dire que cette équipe a plus d'automatisme depuis un mois. Ça, oui, c'est problématique parce que on est entre guillemets la seule nation majeure qui a eu autant de turnover, qui a changé autant de fois de joueurs à des postes clés, au talonneur, numéro 8, à la charnière, au poste d'arrière. Alors, pour la parenthèse, au poste d'arrière, il y a encore autre chose, c'est qu'on prend Ramos pour faire toute la compétition, qui a soi-disant une blessure à la cheville qui l'oblige à rentrer chez lui.
En France, qui joue à Toulouse.
Donc bon, là pour le coup...
Ah oui, là si tu peux nous avoir des éclaircissements, j'ai pas tout compris. Alors peut-être que Toulouse, c'est pas très loin de Lourdes, il a fait un petit détour en arrivant et que c'est peut-être pour ça qu'il peut jouer, non ?
C'est juste que les staffs médicaux étaient pas coordonnés. Le staff médical de l'équipe de France a dit qu'il pouvait plus rien faire en termes d'entraînement pendant au moins 10 jours et que donc ça servait à rien de le conserver. Ben, la preuve aujourd'hui, c'est que l'avoir gardé, ben, ça aurait pu marcher contre en quart de finale puisqu'il aurait été, rétabli. Et puis le staff de Toulouse a dit ben non, en fait, tu peux jouer tout de suite. Donc,
ouais. Rappeler, rassure-nous quand même, parce que les décalages horaires, ça va le fatiguer, Thomas.
Non. Je pense même que ils n'ont pas fait d'efforts particuliers pour le remettre sur pied plus vite, parce que sinon c'est incompréhensible. Mais en tous les cas, la vraie problématique en ce qui concerne les 15 jours sans match, particulièrement côté français.
Et donc pour compléter ce que vous dites, Philippe, donc ce qui est prévu pour dimanche après-midi, c'est une séance à très haute intensité pour essayer le mieux possible de compenser l'absence du match. Il y avait aussi l'idée d'affronter un club japonais, oui, qui a été abandonné. Le problème sur l'effectif, c'est donc il y a 31 joueurs dans le groupe, 23 sur les listes, et donc bah il y a 8, 9, 10, on ne sait pas encore exactement qui seront les sparring partners jusqu'à la fin, quoi.
Philippe Spanghiro, qui était dans Les Vraies Voix hier pour parler justement de ce sujet et qui a adoré les jeux de mots de Philippe Bilger, je vais juste faire une remarque. Jouer ou pas jouer un club japonais, c'est ni bon ni mauvais. Je voulais réagir, Emmanuel.
Je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Soit on se dit que de ne pas jouer, ça permet de ne pas avoir de blessés et de se sécuriser par rapport à ça.
Ce qui pourrait arriver aux Gallois contre l'Uruguay, malheureusement.
Mais c'est vrai que c'est qu'après le match qu'on peut savoir si c'était bien ou pas de jouer.
Peut-être se permettre de mettre une équipe petite pavée, mais à prime, quoi, oui, comme on dit.
Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de ne pas jouer, s'il y a une certitude, c'est qu'au niveau du rythme et des automatismes, ça va desservir à l'équipe de France, ça c'est une certitude.
Marie-Ève.
Moi, je disais, le seul avantage, il peut être psychologique, parce que pour moi, on se serait vraiment pris une grosse valise contre l'Angleterre, et que là, on prend pas ce risque-là, et on reste sur 3 victoires.
Ou pas. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que... Là, dans l'esprit des Français, ils se disent on n'a pas joué l'Angleterre, on aurait pu se prendre une branlée.
Mais en même temps, c'est le match qu'ils attendaient tous, quoi.
Oui.
Voilà, mais ils auraient.
C'est le match que c'était le sommet du groupe, ça c'est clair.
Là, on en a quasiment la certitude qu'on se serait pris une branlée. Donc, si on l'avait pris, ça aurait pas vraiment été une surprise. Par contre, si on avait fait un match, même si on perdait face à l'Angleterre, pour la confiance, ça aurait pu être bien. Donc, je sais pas si c'est une si bonne chose psychologiquement.
Alexandre.
Moi, je voulais rappeler ce qu'avait déclaré le coach gallois, donc en parlant de ce rythme différent entre l'équipe de Galles et la France. Donc, Le coach de l'équipe a dit que ça va être intéressant de voir comment la France va gérer cette période sans match dans les prochains jours, que ça peut leur poser un problème dans leur préparation. Bon, on en a parlé. Il a dit qu'en revanche, en ce qui concerne l'équipe de Galles, ils veulent continuer à profiter de leur forme du moment, l'entretenir, construire dessus. Et puis après dimanche, ils pourront commencer à penser à retourner à Oïta, donc pour le match prévu contre l'équipe de France. Il a dit, ça sera dur, mais on a d'abord un boulot à faire contre l'Uruguay, sinon ça sera l'Angleterre face à nous. Bon, je pense que c'est pour être fair play, évidemment. Ouais. Mais bon, voilà comment...
Et puis pour montrer qu'on a respect des Uruguayens, qu'on ne pense pas leur en mettre 50 avant même d'avoir commencé à jouer.
Exactement.
C'est quand même plus cool. Philippe, t'es d'accord avec moi si j'affirme que ça va être Galles et pas l'Australie?
Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a trop d'hypothèses sans rentrer dans le détail pour que ce soit l'Australie. Mais oui, pour moi ce sera le pays de Galles et puis on se prépare à ça et je pense que c'est mieux pour nous.
Comment vous la sentez la confrontation face aux Gallois? C'est pas un très bon souvenir lors du dernier tournoi destination.
Là, on arrive à un moment où, quoi qu'il arrive, on sera outsider. Pardon, je vais y arriver. Donc, je pense.
Ah, ben là, maintenant, on est outsider jusqu'à la fin.
Voilà.
Donc, bon, sauf que en regardant le tableau, on pourrait avoir un Japon-Afrique du Sud.
Oui, bon.
Imaginons qu'on donne un arbitrage Craig Joubert aux Japonais, que sur un malentendu, les Japonais passent.
Ça fait beaucoup de si. Mais voilà, quoi qu'il arrive, maintenant, bon, on n'est pas favoris, donc ça peut être que des bonnes surprises. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bons tirages.
Moi, je pense quand même, on en a parlé pas mal de fois cette semaine ensemble, Philippe. Je pense quand même que jouer une équipe qu'on joue une à deux fois tous les ans,
On se connaît par cœur.
Voilà. Ouais. Que jouer l'Australie, qui est une équipe qu'on affronte forcément moins, autre hémisphère, autre groupe mondial. Je pense quand même que s'il y avait une chance, elle serait un peu plus du côté de Galles que de l'Australie.
Marie-Ève.
Et puis on sait maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Donc on a un espoir face à eux. On sait qu'il faut être bon pendant un match. Et là, sur les trois matchs, ils ont montré qu'ils n'avaient toujours pas compris. Donc on peut espérer que sur le quatrième, ça marche.
Philippe, on s'était chambré la semaine dernière où tu disais « faut qu'on joue les grandes équipes, mais sur une mi-temps ». Ce serait bien finalement qu'il y ait un typhon à la mi-temps de France-Galles quand on mène au score et que on dise il n'y a pas de fin de match, non? Tu peux imaginer ça ou pas?
Je préfère pas l'imaginer parce que comme je te le disais, maintenant il faut qu'on gagne les matchs par notre valeur, qu'on n'attende rien du destin, parce que c'est pas bon signe. Il faut qu'on se donne les moyens de battre le Pays de Galles. C'est une équipe à notre portée, hein, parce que pour mémoire, sur le dernier tournoi, c'est le mal de l'équipe de France ces dernières années, mais on fait une des meilleures entames et une des premières mi-temps que j'ai vu de l'équipe de France depuis plusieurs années.
C'est vrai.
Avec une vraie maîtrise de nos sujets, de nos fondamentaux, on archidomine la mêlée, la touche. On est largement en tête au score et puis après on s'effondre. Je pense que ce match, notamment cette première mi-temps, elle sera dans les têtes parce que il faut se dire qu'on est capable de chahuter les Gallois, qu'on a des armes pour ça. Espérer que ça passe de toute façon ce sera une Coupe du Monde réussie parce qu'on était déjà tous très mesurés sur la capacité de la France à sortir de la poule.
Oui. Surtout quand on affrontait l'Argentine dès le début, notre huitième de finale quoi, direct.
C'est sûr. Alors il nous reste à peine 2 minutes. Question, il va quand même parler du groupe qui aujourd'hui tient tout le monde en haleine parce que 3 équipes peuvent passer, c'est le groupe A. Ça se joue entre les Irlandais, qui sont quand même des cadors du rugby, les Écossais et les Japonais.
C'est la compétition numéro 1 mondiale. Hein.
C'est sûr, exactement ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous voyez passer? Qu'est-ce que tu vois passer, Philippe?
Ah ben moi je vois passer. Enfin, on revient au débat de départ. Ouais. Mais globalement,
les matchs se jouent bien évidemment.
Hein. Globalement, je vois le Japon passer et j'aimerais que le Japon passe.
Même s'il y a match.
Parce que sportivement, il le mérite.
Ah oui,
un match hyper abouti contre les Irlandais. Et puis pour la remise un peu en perspective de l'échiquier du rugby mondial, ce serait vraiment une belle chose.
Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel?
Sur le plan du mérite, oui, je suis assez d'accord que ce serait plus sur ce qu'ils ont montré, plus le Japon
Ils ont eu des tripes.
Ils ont un supplément d'âme.
Contre l'Irlande, ils font plaisir. Ouais. Par exemple, ils font un match énorme.
C'est clair, voilà, donc plutôt,
ils sont portés par leur public.
En plus, donc c'est une belle histoire. Le Japon, ce serait une belle histoire, en plus.
Marie-Ève.
Ouais, moi aussi, le petit poussé qui passe, on est toujours content quand en Coupe de France, il y a le petit club, voilà.
Et donc, j'extrapole, ça nous donnerait un quart de finale Nouvelle-Zélande, Irlande. Si je ne m'abuse, c'est le numéro 1 et le numéro 2 mondial, Philippe.
C'est ça.
Oui, c'est donc digne d'une finale, mais c'est un quart.
Après, à ce niveau, la quart de finale de Coupe du Monde, bon, ils sont tous bons.
Puis c'est ce qu'on se dit tout le temps, c'est-à-dire que de toute façon, pour aller au bout, il faut battre tous les meilleurs avant. Donc,
Ça fait un peu le ménage quand même.
C'est clair, mais là par contre, ça fait quand même un choc.
Un sur deux.
Mais colossal, Irlande-Nouvelle-Zélande, c'est...
Il faut que ce match Japon-Écosse se joue, parce que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je serais écossais, je deviendrais fou furieux, quoi.
Bah,
mon équipe, ça fait 4 ans que j'attends ça, je ne peux pas jouer, je ne peux pas passer en quart.
Surtout si tu as payé le voyage.
Et surtout que voilà, ils ont quand même le moyen de passer contre le Japon. Si le match se fait pas, c'est quand même très très moche. Et malheureusement, on va retenir que ça de la Coupe du Monde.
Vous êtes bien sur Sud Radio. Vous êtes bien sur Sud Radio. C'est la fin des vraies voix sport. Et puis vous êtes 54% à penser que match annulé en Coupe du Monde, top 14 faussé, le rugby est-il vraiment un sport professionnel?
Les
merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. Philippe Spanghero, Emmanuel Galasso, Marie-Ève Wilson-Jamin, Alexandre de Moussac. Dans quelques instants, le Loft Musique d'Ivan Cujous. Et si je vous dis Francis Cabrel? Bah oui, parce que c'est les rencontres d'Astafor où notre ami Ivan est allé avec le Loft. Restez bien avec nous sur Sud Radio.